On est en train de continuer notre étude sur notre nouvelle position en Jésus. Il y a tellement de belles choses à aller chercher dans la parole de Dieu, des révélations cachées que le monde ne connaît pas, mais c'est révélé par le Saint-Esprit. Ce qu'on apprend aujourd'hui, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est encore une bénédiction de plus qu'on a reçue à cause qu'on est né de nouveau. Parce que quand on accepte Jésus, on comprend pas tout. On accepte Jésus, ce qui est important, c'est que je sois pardonné de mes péchés. C'est la plupart du monde, c'est ce qu'on veut en acceptant Jésus, être au moins pardonné, au moins que je puisse rentrer, là, peu importe où ce que je sois là, c'est ça qui est important. C'est de même qu'on se sent au début. Mais Dieu a beaucoup plus que ça à nous donner, puis vous allez voir. Les versets, là, même pour moi, ça fait longtemps, je la lis la Bible, puis j'ai des versets que j'ai relus là-dedans, là, puis ça m'a béni, ça m'a fait du bien, ça renouvelle même, c'est captivant, c'est passionnant, c'est excitant, c'est trippant. On veut tous les avoir, ces versets-là, dans notre cœur. Il dit, j'écrirai mes paroles dans leur cœur. Dieu veut qu'on ait à cœur ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a promis, puis qu'on le tienne, qu'on le garde, qu'on se laisse pas voler cela. C'est à moi. Il n'y a pas personne qui va me l'enlever. Faut agir comme ça, là. Je me laisserai pas voler ce que Dieu m'a donné. C'est à moi. Gardez-les. Gardez-les. Laissez-vous pas voler. Amen. Nous sommes grâce au Christ, une autre option que Dieu nous a donnée en Jésus à cause du cadeau qu'il nous a donné d'être pardonné. On est né de nouveau, on est une nouvelle créature. Puis maintenant, à partir de ce moment-là, le point que nous regardons aujourd'hui, notre nouveau statut, c'est que nous sommes devenus saints. Ouais, il y en a qui vont dire, ouais. Ça veut pas dire grand-chose dans la pensée humaine normale. Faut que tu te nourrisses de la Bible, comprendre ce qu'il veut dire par cela. Puis quand tu comprends ça, c'est là que tu vois la grandeur de ce mot-là, d'être un saint et tout ce qui va avec. Que veut dire la Bible par devenir saint? Qui sont les saints dont la Bible nous parle? Comment devient-on saint? C'est important de le savoir, puis à quoi ça sert d'être saint? Mais il y a des belles bénédictions qui sont rattachées à ce statut-là, parce qu'il y a des promesses qui sont données spécifiquement pour les saints. La première idée que je regarde, c'est un verset pour nous faire comprendre comment est-ce qu'on est béni de comprendre ces révélations-là. Le monde ne comprend pas cela. Puis l'apôtre Paul, tu sais, des fois on peut avoir des apôtres préférés. Je dis pas que j'aime pas les autres, mais lui, je trouve qu'il était spécial. Dieu l'a choisi pour avoir les plus grandes et les plus merveilleuses révélations qu'on a dans le Nouveau Testament. Elles viennent de l'apôtre Paul. Jean y en a dit, Pierre y en a dit aussi, mais pas beaucoup. Des lettres qui nous sont restées avec les enseignements, mais l'apôtre Paul, il y en a beaucoup. Puis il a reçu une grâce du Seigneur, l'apôtre Paul, de recevoir la majorité des révélations des mystères de Dieu, parce que Dieu s'est révélé tranquillement. Il y avait des choses que le monde se doutait sur Dieu, surtout le peuple d'Israël. Il apprenait à connaître les promesses de Dieu, il essayait d'apprendre ce que Dieu avait à donner comme promesse, comme bénédiction, mais c'était des mystères. T'as des choses cachées. Les prophètes annonçaient des choses, comme la venue d'un Messie, mais c'était mystérieux, c'était pas révélé clair, net et précis. C'est dans la suite des temps que Dieu a donné révélation. Jésus est venu, puis il a fait ses miracles, puis il a fait ce qu'il avait à faire, puis le monde avait de la difficulté même à croire en lui. C'est suite après sa mort que les lumières ont commencé à s'allumer, puis les gens ont commencé à accepter Jésus. À Pentecôte, il y a eu 3 000. Ça n'a pas été long que ça tombait à 5 000. Mais juste avant qu'il meure, il y avait les 11 disciples qui étaient là, puis même chacun a pris la fuite. Il n'y a personne qui restait autour de Jésus. Mais par la suite, la révélation a commencé. Puis là, les apôtres ont reçu des révélations. Ils ont été voir les autres disciples un peu partout. Puis il a expliqué, il a envoyé des lettres, puis il a expliqué des choses qui sont la révélation des mystères de Dieu révélés aux saints. pour les saints. Parce que Dieu a des choses qu'il a préparées d'avance dans son plan éternel, avant qu'il ait créé la terre et que le monde soit tu. Il avait déjà planifié de bénir des gens qui seraient appelés des saints. Dans Colossiens 1, 25, ça nous dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, en parlant, qu'il a été fait ministre à cause que l'Église avait besoin des ministres, mais il a été fait ministre, un ministre, il y avait un ministère de quelqu'un qui était là pour enseigner les révélations de Dieu. Puis c'est une charge que Dieu y avait donnée auprès de l'Église, auprès des chrétiens, afin que l'apôtre Paul annonce pleinement la parole de Dieu. Première chose qu'on comprend dans ce verset-là, Dieu veut nous révéler sa parole. Il veut qu'on comprenne pleinement sa parole. Dieu veut nous communiquer ses révélations. Il veut nous dire ce qu'il a préparé spécialement pour son Église. Là, aujourd'hui, c'est ce qu'il a préparé spécialement pour les saints. Il dit au verset 26, on continue, il dit, c'est le mystère caché de tout temps. Depuis le début de la création, c'était caché, c'était pas révélé. L'apôtre Paul a reçu les révélations, puis a annoncé ça à l'Église. Ces mystères cachés-là, que le monde puisse comprendre la parole. Puis il dit, c'est révélé maintenant à ses saints. Dieu est en train de bâtir la connaissance des saints. Les saints deviennent de plus en plus conscients de leur héritage, de ce que Dieu a préparé pour lui. Cette révélation-là commençait avec l'apôtre Paul, il a envoyé ses lettres, les gens ont commencé à rentrer dans la connaissance de ce que Dieu a préparé pour ses saints. Là, on veut savoir c'est qui ces saints-là, c'est important. Ils ont des choses spéciales, les saints. Pour comprendre un peu le commencement des révélations, il y a une prophétie dans Daniel qu'on va aller lire, comme qu'on avait vu une la semaine passée qui parlait du royaume de Dieu, que Dieu était pour bâtir un royaume, puis que ce royaume-là, il y aura une domination éternelle, puis ce royaume-là régnerait pour l'éternité, puis c'est nous qui faisons partie de ce royaume-là. Aujourd'hui, on voit une autre révélation dans ces écrits-là, dans Daniel au chapitre 7, les versets 17 et 18, une prophétie de Daniel qui disait qu'il y aura un peuple qui sera appelé le peuple saint, qui recevront l'autorité de tous les royaumes de la terre. Wow! Là, on est en train, en regardant ces versets-là, il y a deux versets qu'on va aller lire. Il y a une promesse de Dieu donnée dans les écrits de l'Ancien Testament. Personne ne comprenait la portée de cette promesse-là. De qui est-ce que Dieu parle, qu'il va avoir des gens qui sont nommés des saints. Puis ces saints-là vont régner pour l'éternité. Daniel 7, les versets 17 et 18. Là, il nous parle dans une prophétie qu'il va avoir des gros royaumes, des grands royaumes puissants qui vont régner sur la terre. Puis c'est pas les royaumes de Dieu, c'est les royaumes des hommes. Puis là, il nous parle cela en image comme c'était quatre grands animaux. Ça, c'est au verset 17. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais, verset 18, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Wow! Révélation extraordinaire d'un groupe qui sera appelé les saints. Puis suite à que les grands quatre royaumes qui sont supposés de s'établir sur la terre, pour régner sur la terre, puis se sont accomplis, on pourrait aller lire l'histoire pour regarder que le royaume de Nébuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, qui régnait sur la terre, après ça, le royaume des Mèdes et des Perses, après jusqu'à temps qu'arrive le dernier royaume, l'Empire romain, qui règne encore par l'Église catholique. C'est les deux jambes de la statue de Daniel, puis ça finit avec les 10 orteils, qui sont 10 rois qui vont régner sur la terre encore dans les derniers temps. On est rendu là, c'est en train de s'accomplir. Mais le point qui est, après que tous ces royaumes-là soient venus, le peuple des saints de Dieu vont recevoir le royaume, puis posséderont le royaume éternellement. Puis le verset 27, dans le même chapitre, Daniel 7, le verset 27, on va lire liste encore ce verset-là, parce que ça confirme encore ce qu'on vient d'entendre. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, ce que vous voyez aujourd'hui, là, les royaumes, que ce soit les États-Unis, c'est une superpuissance, la Russie, la Chine, des superpuissances mondiales, l'Europe, avec tous les pays dans le monde, puis les superpuissances mondiales, mais ça nous dit le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, c'est ceux qui sont là présentement, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Wow! Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs, ceux qui dominent présentement, le serviront et lui obéiront à ce royaume-là. Il y a quelque chose de spécial, de grandiose, de puissant. C'est un mystère, parce que personne ne comprenait ce qui parlait là-dedans. Là. La révélation a commencé après Jésus-Christ. Pour comprendre, c'est qui les saints qui vont régner sur tout ce qu'on voit présentement de pays de superpuissance. Là, ils sont encore comme permis d'exercer leurs autorités, mais il va venir un jour où les saints vont prendre le contrôle de toute la planète par le royaume de Dieu. C'est Dieu qui va régner ce royaume-là. Qui sont les saints qui hériteront la royauté éternelle? Ça va être extraordinaire. J'ai beau essayer de réfléchir. Dieu veut faire de son Église, veut faire de son peuple, il veut faire de ses saints des rois et des seigneurs pour régner pour l'éternité, d'éternité en éternité. Premièrement, ce qu'on doit savoir, c'est que le titre de saint, d'être appelé saint, c'est donné uniquement à Dieu. C'est Dieu qui porte ce nom-là en partant. Parce que le mot saint, on le voit dans l'Apocalypse chapitre 4-8, ça nous parle que les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, puis ils sont remplis de Dieu autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Ça veut dire l'Éternel, celui qui est toujours, qui remplit les temps. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. C'est un mot-là, en premier, d'être un saint, ça appartient à Dieu. Aucun humain sur la terre ne pouvait être appelé saint. Parce que le mot saint, parce qu'il y a le mot saint dans l'hébreu, puis le mot saint dans le grec, c'est semblable. C'est chose très sainte, consacrée, un saint. C'est quelque chose de sacré. Quand tu parles de saint, c'est pas le contraire d'être... c'est quoi le mot? Je l'avais dans tête de deux secondes. D'être... j'ai oublié le mot. Ben c'est le contraire d'être souillé, d'être... Il y a un mot pour désigner l'ensemble des êtres humains qui sont le contraire d'être un peu profane. C'est le mot profane. Saint, c'est le contraire du mot profane. Profané, c'est quelque chose de sale, de corrompu, de ordinaire, tandis que Dieu, lui, il est saint, sacré, par sa grandeur, par sa pureté, par sa puissance, voyez-vous. Ça s'adressait à Dieu seul. Il n'y a aucun humain qui avait le titre d'être un saint. Sauf que, faut comprendre que Dieu, il a envoyé son Fils, Jésus, qui était le saint de Dieu, c'est tout le monde là, qui connaissait Jésus. Jésus est Dieu, est le Dieu trois fois saint. Même les démons, quand ils voyaient Jésus, puis là, ils se révélaient, puis ils se manifestaient, puis là, ils parlaient à Jésus, puis ils disaient, « Tu es le saint de Dieu! » Jésus ne leur permettait pas de parler parce qu'il ne voulait pas que ce soit les démons qui rendent témoignage de lui. Mais l'idée, c'est que le Dieu Saint est venu sur la terre pour accomplir sa mission, pour nous permettre à nous de devenir saints. Jésus a payé le prix afin de nous racheter pour nous rendre saints. Fait qu'en partant, les humains ne pouvaient pas avoir ce titre-là. Aucune personne sur la terre pouvait se faire appeler un saint, puis se dire qu'il fait partie de ce royaume-là qui va régner éternellement en tant que saint. Mais par sa mort, cela nous a permis d'être réconciliés avec Dieu et de devenir saints. On voit ça dans Colossiens 1, 21. 21 et 22, ça nous dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, voyez-vous c'est à quoi l'état réel des humains sur cette terre? Ennemis de Dieu. On était étrangers de Dieu. On ne pouvait pas dire, j'appartiens à Dieu, ou je connais Dieu, ou je suis saint, encore moins. On était des étrangers et des ennemis par nos pensées, nos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés avec Dieu à cause du sacrifice de Jésus, par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. À cause de l'œuvre de Jésus, ça nous permet aujourd'hui de se présenter à Dieu comme étant un saint. L'œuvre de Jésus, sa mort sur la croix, il a par sa mort qu'il a subi, ça nous a permis d'être lavés, purifiés, naître de nouveau, être une nouvelle créature, puis être déclarés saints. Le type de saint s'adresse maintenant à certaines personnes vivantes sur cette terre. En Éphésiens 1:1, l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Éphésiens que lui, Paul, c'est un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Là, il s'adressait aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Les saints, les véritables saints dans le Nouveau Testament, c'est l'Église du Seigneur Jésus, ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus, ceux qui ont reçu la nouvelle naissance. Quand tu as reçu le pardon de tes péchés, tu as reçu le Saint-Esprit, ton corps est devenu le temple de Dieu. Tu es maintenant un saint, un purifié, mais un déclaré saint à cause de la présence du Dieu Saint qui est en toi.
Merci, mon Dieu.
Amen. Gloire à Dieu. Puis là, Paul s'adresse, puis il est en train de le dire où sont les saints. Il dit, Paul, apôtre du Seigneur Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Paul s'adressait à des saints. Les saints, c'est pas les morts, c'est les vivants. Ceux qui étaient là, qui avaient reçu le cadeau de devenir saints à cause de l'œuvre de Jésus. Contrairement à la croyance populaire, c'est pas les humains qui choisissent qui sera saint. Parce que c'est ce qu'on voit dans les croyances populaires aujourd'hui. On a des grosses églises qui se décident de dire, bon, lui, à partir d'aujourd'hui, là, on va le béatifier, on le déclare saint. Une fois qu'il est saint, là, ça veut dire qu'il est dans le ciel, puis tu peux le prier. Ça n'existe pas. C'est pas biblique. C'est pas les humains qui décident qui va être saint et qui ne le sera pas. On ne parle pas des gens dans le ciel, on parle des gens sur la terre qui peuvent devenir saints, puis ça dépend pas de la volonté d'un gars qui se lève le matin puis qui dit « Moi, j'ai décidé que lui mérite d'être déclaré saint. » C'est pas lui qui décide, c'est Dieu qui décide qui va être saint. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13, l'apôtre Paul, comme je vous le dis, il a écrit beaucoup de révélations pour nous faire comprendre ces principes-là. C'est des mystères cachés que le monde ne comprenne pas, puis ils se font des religions, ils essayent d'expliquer ces affaires-là, puis ça n'a pas rapport à ce que les humains décident. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet, puis il parle encore de l'Église de Thessalonique, Thessalonique. Il dit, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi. C'est pas un homme qui a choisi. C'est pas un homme qui a décidé que lui il va devenir saint. C'est Dieu qui a choisi les critères puis qui a choisi les gens pour devenir saint. Puis Dieu y appelle les gens. Il dit, il nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Fait que les gens qui étaient là, assis dans l'église de Thessalonique, lui Paul il dit, je rends grâce à Dieu de ce que Dieu vous a choisi par la foi en Jésus puis par la sanctification de l'esprit. Comment est-ce que Dieu a décidé de rendre les gens saints? En présentant l'Évangile, puis que les gens ont saisi par la foi ce message-là. L'Évangile, c'est que Jésus est venu, c'était la bonne nouvelle, le royaume de Dieu est descendu vers nous, puis le royaume de Dieu en Jésus, il a payé ce que ça coûtait pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés, puis nous permettre de naître de nouveau. Puis une fois que tu nais de nouveau, le Saint-Esprit entre en toi. C'est ce qu'il dit, par la foi en la vérité, tu vas l'accepter, tu vas le recevoir, puis là tu vas vivre la sanctification de l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit rentre dans une personne qui naît de nouveau, ben sans naître de nouveau, sans recevoir le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu le reçoives. C'est une nouvelle vie qui commence, c'est une nouvelle création à partir de ce moment-là. L'Esprit Saint rentre en toi, puis ça te sanctifie. Te sanctifier veut dire te rendre saint. Te rendre consacré à Dieu. Tu peux pas être consacré par toi-même, par ta religion. On est des profanes, on est des infâmes, on est des pécheurs. Faut absolument que tu passes par être pardonné, puis que tu reçoives le Dieu Saint en toi. C'est le Saint-Esprit qui rentre en toi. Puis quand le Saint-Esprit rentre en toi, t'es sanctifié, puis t'es appelé saint. Wow! Amen. Maintenant, le travail de notre sanctification, parce que là, une fois que tu viens en Jésus, tu reçois l'Esprit Saint. Une fois que tu as l'Esprit Saint, il y a une nouvelle vie qui commence. Tu as ta nouvelle vie. Là, notre travail de se rendre de plus en plus saint, parce que là, tu veux avancer dans le Seigneur, tu veux te consacrer de plus en plus, c'est rendu possible à cause de ce que Dieu nous l'a donné. C'est pas parce qu'on l'a choisi, c'est parce que le Saint-Esprit est entré que c'est rendu possible. Oui, j'ai répondu à l'appel. Vous avez répondu à l'appel. Il vous a appelé, venez. Je vous invite à devenir saint. Mais ces critères pour être saint, il fallait que tu aies la foi en la vérité, puis il fallait que tu reçoives le Saint-Esprit dans la nouvelle naissance. Puis c'est là que tu es vraiment un saint du Très-Haut. C'est là que ça commence. Puis il nous l'a offert, donc c'est Dieu qui nous a appelés, qui nous a choisis, qui nous l'a offert. Nous, on a dit oui, mais ça ne dépend pas de nous, parce que nous, on n'était déjà pas capable de l'avoir. Maintenant, le travail de la sanctification, il est possible à cause que Dieu nous l'a donné. Le Saint-Esprit est en nous, là, notre vie commence à changer. C'est le résultat d'être devenu une nouvelle créature. C'est là que ça commence. Sans naître de nouveau, tu ne peux pas le voir, le royaume, puis tu ne peux pas y entrer. Il faut que ça commence quand tu le reçois. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ça a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce que j'ai prêché sur le titre d'enfant de Dieu que nous sommes. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es un saint du Très-Haut. Merci Seigneur. Grâce à la présence de Dieu en nous, nous sommes devenus saints. Puis nous sommes devenus des saints. Nous sommes devenus les saints du royaume. Il n'a pas deux badges de saint, il n'a juste une badge. C'est la badge de ceux qui vont vivre toutes les promesses de Dieu. Même les celles que j'ai lues tout à l'heure dans Daniel, ça s'en vient pour les saints dans pas long. Jésus va revenir, il va débarquer, puis il va prendre sa place qui lui revient parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Il va prendre la place qui lui revient et tous ses saints seront avec lui. On va régner avec lui pour l'éternité. Wow! Ça va être grandiose. Il n'y a pas un boss sur la terre, pas où est-ce que vous travaillez, il n'y a pas un qui a des conventions collectives aussi puissantes que ceux-là. Dans 1 Corinthiens 3:7, nous dit, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » On est le temple de Dieu. On est né de nouveau, le Saint-Esprit est entré, il est là, puis maintenant, nous sommes des saints. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est à cause que Dieu nous a rendus saints par le Saint-Esprit qui est en nous. Tout est à cause que Dieu est là. Sinon, on n'aura rien. Merci Seigneur. Gardons précieusement cette communion-là avec lui. Maintenant, quelle est notre mission en tant que saint? Il y a plusieurs points, j'en ai ramené quelques-unes. On a une mission en attendant. Dieu s'attend que ses saints soient, trois petits points, puis on va regarder quelques points. Premièrement, nous sommes sanctifiés par Dieu pour devenir obéissants. J'ai-tu un amen à quelque part? Oui. Dans 1 Pierre 1-2, des fois, notre nature humaine, puis ça, à un moment donné, j'ai écouté une prêche de quelqu'un, puis ça m'a touché, puis ça m'a aidé à élargir ma vision de ce point-là, comment est-ce que les humains sont capturés par leur nature de péché qu'on a reçu. Notre enveloppe corporelle, qui est une nature à pratiquer le péché, puis à être rebelle contre la volonté de Dieu. Depuis notre naissance qu'on manifeste cette volonté rebelle-là, puis est encore là, même quand tu deviens saint, puis là, tu as un combat qui commence entre ta nature rebelle, puis le Saint-Esprit qui est entré en toi. Puis là, on a quand même une ligne directrice à suivre, qu'on va regarder certains points, comme le premier. Nous sommes sanctifiés, déclarés saints, par la présence du Saint-Esprit en nous, par Dieu, pour devenir obéissants. 1 Pierre 1-2. Ça nous dit qu'on est élus, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, c'est ce que je vous disais tantôt. Si on est devenu un saint, c'est à cause qu'on était sanctifié. Comment est-ce qu'on est devenu sanctifié? C'est à cause que le Saint-Esprit est entré en nous. Là, on a été déclaré saint. Ça commence là. Puis le changement et la transformation, ensuite, est possible parce que l'Esprit Saint est en nous. Mais là, il dit, on est élu, selon la préscience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit, afin, là ça nous dit pourquoi qu'on était sanctifiés, afin qu'ils deviennent obéissants. Amen! On veut devenir obéissants, Seigneur. Notre nature rebelle nous faisait qu'on était toujours en train de se battre contre Dieu, puis résister à sa volonté, faire des choses que Dieu aime pas, puis même après, tant que tu es chrétien, tu es tenté dans toutes ces affaires-là, tant que ton corps il n'est pas mort. Tant que tu n'as pas réussi à avoir la victoire dans ton corps, c'est encore là. Puis des fois, même, tu peux avoir des victoires, puis la chair refait surface, puis reprendre contrôle, puis c'est dangereux. On l'a vu la semaine passée que ceux qui marchent selon la chair vont mourir. On doit apprendre par l'Esprit à faire mourir les actions du corps. C'est un combat dans cette vie. L'Esprit Saint veut prendre toute la place puis veut faire mourir notre corps. Fait que il nous a sanctifiés, nous a rendus saints par le Saint-Esprit afin qu'on devienne obéissant. Parce que ça aurait été impossible de devenir obéissant à Dieu sans le Saint-Esprit. On aura toujours une nature qui s'égare dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Il fallait que Dieu vienne faire l'œuvre en nous. Puis là, à cause qu'on devient obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Voyez-vous, ce que je vous ai enseigné au niveau que quand on est juste devant Dieu, on est déclaré juste parce qu'on est sous le sang de Jésus. Mais après ça, si on tombe dans un péché pour être purifié par le sang de Jésus, c'est à quoi les critères? Il faut se repentir et confesser nos péchés. Là, alors, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ça veut dire qu'il faut se maintenir volontairement dans... Si tu tombes, tu demandes pardon, puis tu demandes que le sang de Jésus te purifie afin de te maintenir purifié. Ce verset-là est en train de dire encore les mêmes idées. Tu es sanctifié dans le but de devenir obéissant, puis là, de participer à l'aspersion du sang qui te purifie. L'obéissance, ça comprend aussi la repentance quand que tu pêches. Tu demandes pardon à Dieu, comme dans la prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons, c'est conditionnel. Le pardon de Dieu n'est pas toujours automatique, faut que tu demandes pardon, puis il faut que tu sois capable de pardonner aux autres si tu veux que Dieu te pardonne. Il y a comme des conditions. Faut que tu le confesses à Dieu, tu lui demandes pardon, puis là, le sang de Jésus te purifie de toute iniquité. C'est encore la même idée qui revient. Dieu a commencé une œuvre formidable pour nous déclarer saints, puis maintenant, on a une responsabilité en tant que saints d'être obéissants. Dieu ne nous a pas sanctifiés pour qu'on redevienne des rebelles, puis continuer à pratiquer notre ancienne vie qu'on pratiquait avant. Parce qu'on était repentant, on a demandé pardon, là on dit, Seigneur, je veux changer de vie. C'est ça qui est à notre cœur. Puis là, le Seigneur nous pardonne, puis son Saint-Esprit nous amène à être obéissants. C'est ça qui est le but, frères et sœurs. Une de nos responsabilités, apprendre à obéir à Dieu.
Amen.
Amen! On veut être obéissant à Dieu.
Amen.
Si on tombe, on demande pardon, on se relève, on continue à être obéissant à Dieu. Faut pas se laisser, oh non, pas encore, je suis obligé. Non, c'est pas, Amen, je suis un saint, puis je veux rester saint. C'est ça qui est l'idée. Si tu pêches, t'es plus un saint pur, t'es rendu encore un profane pécheur. Faut que tu restes sous le sang de Jésus pour rester saint, pour rester consacré, pour rester un sacré. Nous devons rechercher à être saints. Autant que Dieu m'a déclaré saint, mais je dois rechercher à être saint pour approfondir notre relation avec le Seigneur. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 14, ça nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. » C'est mon devoir, une fois que je suis saint, de rechercher la sanctification, de rechercher à être de plus en plus saint. C'est ça que ça veut dire, sanctification. Et sans laquelle, personne ne verra le Seigneur. Si tu recherches pas la paix avec tous et la sanctification, tu verras pas le Seigneur. Pourtant, t'as accepté Jésus, t'as été déclaré saint, mais si tu veux voir le Seigneur dans ta vie ou après, marche dans sainteté. Résiste au péché, fuis le péché. Laisse-toi pas entraîner puis te livrer au péché pensant que c'est pas grave, Jésus m'a pardonné. Non, on résiste, on recherche. Ça veut pas dire qu'on va l'atteindre, la perfection, mais on vise à l'atteindre. Si on tombe, on demande pardon, on se relève, on continue à rechercher la sanctification. Ça, c'est le cœur d'un saint, quelqu'un qui recherche à sanctifier. Autant que Dieu est saint, bien, je vais être saint. Autant que Dieu il est trois fois saint, mais je dois chercher à être comme mon papa. Comment les enfants regardent leur père puis aimeraient ça être comme son père. C'est normal. Les enfants, ils ont une image de leur père puis ils aimeraient être comme leur père. Grand comme leur père, fort comme leur père. Mon père, c'est le plus fort. Mais tout ça, c'est parce qu'on est comme émerveillé de voir comment notre père, il est grand, beau et fort. Bien, avec Dieu, c'est la même affaire. On devrait chercher à être saint parce que notre Dieu, il est trois fois saint. Nous devons fuir les souillures, parce qu'il y a plusieurs souillures qui peuvent nous rendre impurs. Impur, c'est le contraire d'être pur. Profane, c'est impur. C'est le contraire d'être saint, sacré, pur. Mais il y a plein de choses dans ce monde qui peuvent nous souiller. Jésus en a parlé au niveau de nos pensées, que c'est du cœur de l'homme que sortent les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages. Le péché, là, ça sort dans la pensée. Il faut combattre cela, frères et sœurs. Il faut rechercher à être saint. Mais il y a une chose qui souille aussi, puis que moi, c'est l'idée que je veux ressortir, c'est au niveau des idoles, quand on flirte avec les idoles de ce monde. L'homme, Dieu est Dieu. Il y en a un seul Dieu, puis c'est le Dieu qu'on connaît qu'il est Dieu. Les autres, c'est des faux dieux. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a juste un. Avec sa doctrine, il n'y a juste un. Marie n'est pas Dieu. Puis nous, on fait face à ce combat-là dans le monde québécois. Puis il y a d'autres places dans le monde que l'Église catholique avec ses mensonges. Mais Marie comme au centre, puis que c'est pas un dieu, Marie. Ni les saints catholiques, c'est pas des dieux. C'est des idoles. La minute que tu t'adresses, en regardant en haut, puis tu t'adresses à quelqu'un d'autre qu'à Dieu le Père, dans le nom de Jésus, tu es en train de parler à une idole. Puis la minute que tu es devant une image, peu importe que c'est une image d'un humain, une image d'un homme ou d'une femme ou d'un animal, ou un oiseau, ou un reptile, ou n'importe quoi, la minute que tu mets à genoux devant une représentation en statue ou en image, c'est de l'idolâtrie. Puis la Bible est claire que quand tu connais le vrai Dieu, tu n'as pas le droit de toucher à l'idolâtrie, parce que nous sommes des saints. Puis les idoles, c'est le monde des ténèbres, ce qui appartient au diable. C'est impur, c'est sale, c'est corrompu. Puis dans 2 Corinthiens chapitre 17, ben un petit peu avant, ça dit, il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière, entre la puissance de Satan et la puissance de Dieu. Entre le temple de Dieu et les idoles, il n'y a rien de commun. C'est complètement deux mondes séparés. Puis Dieu nous dit au verset 17, il dit, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. On n'a pas le droit de toucher aux idoles. Puis là, il nous dit pourquoi. Ne touchez pas à ce qui est impur. Puis là, il y a une promesse. Et je vous accueillerai. Dieu parle à son peuple. Pourtant, c'est déjà son peuple. Puis il dit, touche pas à ce qui est impur, puis là, je vais t'accueillir. Parce que quand tu es en train de te souiller, de te saler avec les démons, Dieu n'est pas avec toi. Tu es en train de te saler, puis il dit, touche pas à ça, puis je vais t'accueillir. Verset 18, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Là, on continue au chapitre 7, le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, une promesse qu'on peut être en communion avec Dieu le Père, le Dieu trois fois saint, puis que moi je peux être en contact avec, il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Christ. Si on a les promesses que Dieu veut nous accueillir, puis il veut demeurer en communion avec nous, puis il veut faire sa demeure chez nous, on a un devoir de fuir, de quitter les choses sales de ce monde. Touchez pas à ce qui est impur. Là, dans cet exemple-là, dans ce passage-là, ça parlait de l'idolâtrie. Mais il n'y a pas juste l'idolâtrie qui est sale puis qui est souilleux. Tous les commandements de Dieu, quand Jésus dit, c'est du cœur de l'homme que sortent les meurtres, c'est un des 10 commandements. Les adultères, c'est un des 10 commandements. Les vols, c'est un des 10 commandements. Les convoitises, c'est un des 10 commandements. Tous les commandements de Dieu, là, mais là, en liste, là, puis si tu as ça dans tes pensées, puis c'est ça que tu cherches, tu es dans le péché, tu es en train de te souiller. Il dit, c'est du cœur de l'homme que sortent tous ces péchés-là, puis qu'il est souillé par cela. L'idolâtrie y compris. Voyez-vous comment est-ce que Dieu, il t'appelle saint, Là, il dit, tu dois chercher la sanctification, sinon tu ne verras pas le Seigneur. Puis dans la recherche de la sanctification, c'est de quitter certaines choses, puis de ne pas toucher à certaines choses, parce qu'il n'y a pas de passe-droit. Si tu y touches, tu deviens sale. C'est comme un enfant, tu viens de le laver, tu y mets du linge propre pour aller à l'église. Là, tu dis, reste là, là, va pas piler dans la boîte. Première nouvelle que tu sais, il s'en va dans la boîte, puis il est à genoux dans le trou de boîte, puis il s'est tout sali, puis il a tout sali son linge. Est-ce qu'il a réussi à pas se salir en se roulant dans la boîte parce que c'est votre enfant? Non. Si tu piles dans la boîte, t'es souillé automatiquement, peu importe qui ce que t'es. Ça aurait été Jésus qui aurait été se rouler dans la boîte, il aurait été sale, lui, avec. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'un chrétien doit dire non au péché, aux souilleux de ce monde, puis il doit fuir ces choses-là afin de demeurer saint. Parce que la minute que tu y touches, t'es rendu sale. Paul, c'est ce qu'il dit dans Corinthiens, dans un autre passage. Il dit, quand tu vas dans un temple d'idole, il dit, je veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Parce qu'il dit qu'en arrière des idoles, il y a des démons. Puis les démons, c'est des esprits impurs. Nous, ce qu'on veut, c'est l'esprit saint, pas des esprits impurs. Des esprits impurs, ça salit. L'Esprit Saint nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Voyez-vous, dans notre marche en tant que chrétien, il faut rechercher à devenir saint. Free, quitter, dire non au péché. Tout ce qui est sale, touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai du Dieu. Bientôt, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Puis quand j'ai écrit cette phrase-là, puis que je vais vous lire le passage, je vais vous faire remarquer quelque chose. Dans Apocalypse 21, les versets 11 et 12, « Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. » Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voyez-vous, il nous appelle à pratiquer la justice puis à se sanctifier, parce que les justes, c'est aussi nous autres. Apocalypse 22, versets 11 et 12. Là, je suis au 12. Là, Jésus dit, « Voici, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi. » Pour rendre à chacun selon son œuvre. Ce que je remarque, j'en ai parlé un peu un matin, c'est que Dieu juge pas le monde selon leur cœur. Bien que Dieu aime qu'on ait un bon cœur, mais il nous juge pas face à notre cœur, il nous juge face à nos œuvres. Ça fait une grosse différence. Tu peux avoir à cœur, oh oui Seigneur, je voudrais être saint. Puis tes deux pieds dans le péché, mais il regarde pas ton cœur, il regarde tes œuvres. Dieu juge selon nos œuvres et non pas selon notre cœur. Notre cœur, oh oui, je l'ai à cœur. Mais Dieu dit, si tu crois dans ton cœur, mais il faut quand même que tu le confesses de ta bouche, c'est ton œuvre. Tu démontres publiquement que tu crois en Jésus. Juste le croire dans ton cœur, c'est pas suffisant. Faut que tu passes aux actes. Mais quand tu veux suivre Jésus, c'est la même affaire. À la fin, Dieu va juger le monde selon leurs œuvres. Il va rendre à chacun selon leurs œuvres. Oh oui, moi je le croyais en Jésus, mais j'avais pas le temps. J'étais occupé, je faisais de l'overtime, j'avais pas le temps de l'accepter. Mais même si tu l'avais à cœur, même si tu y croyais, si tu l'as pas accepté et tu t'es pas engagé à le suivre, t'es pas dedans. Ou le chrétien que lui, je l'ai accepté, mais là, les péchés, c'était bien le fun, puis j'avais pas capable d'arrêter, puis j'aimais ça, puis là, il s'est livré là-dedans, puis il pense qu'à cause qu'il croyait en Jésus, que c'était suffisant. Non, Dieu veut que tu abandonnes le péché. Si tu as tombé, parce que ça arrive, ça peut arriver de tomber dans certaines affaires, tu demandes pardon, tu te relèves, puis tu continues à rechercher la sanctification. Il n'est pas question de se livrer à des péchés volontairement. Voyez-vous qu'il y a une différence entre quelqu'un qui veut, qu'il y a le cœur, mais il y a aussi les actions. Ça démontre ce qu'il croit vraiment. Mais Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Puis là, il ne dit pas pour rien qu'il dit, t'es juste, parce qu'on a été déclaré juste par le sang de Jésus. Il dit, pratique la justice. T'es saint, sanctifie-toi encore. Rends-toi de plus en plus consacré au Seigneur, de plus en plus pur. Excusez, un lapsus. Un jour, le dernier verset, le Seigneur Jésus reviendra du ciel, comme il l'a dit dans Apocalypse, « Je viens bientôt ». Un jour, il va revenir du ciel et tous ses saints seront avec lui. Et ils règneront avec lui. On voit ça dans un texte. Ben, il y a plusieurs passages, mais là, j'ai pris un Thessaloniciens 3:13. Que Jésus va revenir, puis tous ses saints vont être avec lui. Ceux qui ont été déclarés saints, puis qui ont marché dans sainteté, qui ont persévéré, mais ils sont dedans. Puis ils vont faire partie de ceux qui reviennent avec le Seigneur, parce que le Seigneur va ressusciter tous les saints qui sont morts. Il va les ressusciter, puis ceux qui sont vivants, en un clin d'œil, vont être transportés avec eux sur un nuage, en redescendre sur la planète, puis s'en venir envoyer ses jugements à ces nations qui se sont rebellées contre lui et contre pour essayer de détruire le peuple d'Israël. Puis Jésus va reprendre le contrôle, puis ses saints vont régner avec lui. Dans 1 Thessaloniciens, ça nous dit, « Afin d'affermer vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables, dans la sainteté devant Dieu notre Père lorsque l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. » Jésus va revenir à son avènement, c'est son retour, avec tous ses saints, puis en attendant, il nous dit de s'efforcer d'affermer nos cœurs pour qu'on soit irréprochables dans la sainteté. Ça veut dire quoi? Il faut travailler fort à lutter contre le péché, à ne pas se laisser voler. Oh, c'est juste un petit péché. On s'en fout. Arrière de moi, Satan, les petits péchés, les gros péchés, on n'en veut pas de péché, je ne veux pas me souiller, je ne touche pas à ce qui est impur, je veux que Dieu m'accueille. Voulez-vous être accueilli par Dieu? Marchez dans... Devenez irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père. Puis au jour où Jésus va revenir, mais il va être avec tous ses saints, puis nous autres, on va être là. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole, les belles paroles, les belles promesses à tous tes saints. Seigneur, merci de nous avoir sanctifiés par le sang de Jésus et par la présence de l'Esprit Saint en nous. Seigneur, on veut marcher dans cette sainteté. Je reconnais que dans notre corps, on a beaucoup de tentations. Puis je te demande pardon, Seigneur. Puis je te demande de nous purifier par ton sang. Mais je te demande aussi de nous donner la victoire afin qu'on soit irréprochable, qu'on puisse marcher en persévérant dans le combat à lutter contre le péché afin de demeurer saint et de devenir de plus en plus consacré. Seigneur, produis ces choses en nous par ton Saint-Esprit. Prends toute la place dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen.